De retour, François Beauregard à Sans détour. J'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. Jonathan Marchand. M. Marchand est activiste en situation d'handicap, président de Coop Assist. Vous avez probablement entendu parler de M. Marchand cet été lorsqu'il a fait un coup d'éclat nécessaire pour obliger les autorités à prendre en compte la situation épouvantable, disons-le, des plus de 3000 personnes vivant en situation d'handicap qui sont coincées dans des CHSLD parce que le système n'a rien d'autre à leur offrir, malheureusement. Bonjour, M. Marchand, comment allez-vous?
Oui, bonjour, ça va bien.
Ça va bien, merci. Récemment, après votre coup d'éclat de cet été, là, qui a forcé une médiatisation de votre situation, qui ce n'est pas que la vôtre, c'est celle de beaucoup d'autres personnes, il y a eu des progrès, il y a eu des discussions et il y a quelques jours, vous annonciez ou on annonçait qu'il y allait avoir un projet pilote. Parlez-nous-en.
Oui, ben c'est ça, pour remettre ça un peu en contexte. Moi, personnellement, je suis en situation d'handicap, j'ai besoin d'assistance 24 heures sur 24. Donc, j'ai des besoins importants d'assistance. Actuellement, j'ai pas le choix de vivre dans un CHSLD, comme je disais. Il n'y a pas d'alternative. On a un système très lourd, très médicalisé, professionnalisé, et qui ne permet pas à des personnes comme moi de vivre dans la communauté. Tout récemment, j'ai obtenu l'assistance que j'ai besoin pour pouvoir retourner vivre dans la communauté. Donc, j'ai obtenu l'assistance 24 heures sur 24 à travers le chef d'emploi-service.
D'accord.
Puis ça, c'est un précédent majeur. Parce que au cours des décennies, il n'y a jamais eu de personnes qui ont eu autant d'assistance que moi. Il y a tout le temps eu des barrières, des taux, des plafonds d'heure qui étaient donnés. C'était autour de 44 ans.
Parce que
il n'y en a plus de plafond présentement.
C'est 24-7.
Bon, oui, 24-7. Puis ça, c'est une avancée importante. Puis ça témoigne du gouvernement là, qui veut vraiment changer les choses. Et ça, ça s'inscrit dans le cadre d'un projet pilote pour que moi et d'autres puissent bénéficier de l'assistance qu'on a besoin pour vivre dans la communauté, mais pas seulement pour vivre à domicile, mais pour pouvoir travailler.
Pas survivre, mais vraiment vivre.
Oui, c'est ça. Comme tout le monde, avoir les mêmes opportunités que tous les autres citoyens. Donc, le projet pilote, c'est d'utiliser ce qui existe déjà, les programmes existants, pour en venir à un projet là, d'assistance personnelle autodirigée, comme on parle, donc qui couvre toutes les sphères de la vie, tant la vie sociale à l'intérieur qu'à l'extérieur du domicile, pour qu'on ait les mêmes opportunités que tous les autres citoyens. Donc, on va travailler avec le gouvernement là, dans les prochains mois pour mettre en place ce projet pilote-là. On parle d'une période de 6 mois pour élaborer le projet pilote. Et après ça, là, ça démarrait là, au courant de l'été.
D'accord. Donc pour vous poser une question bête, ce soir, vous couchez encore au CHSLD?
Oui, c'est ça. Actuellement, je travaille avec les autorités pour essayer de mettre un plan de transition en place pour que je retourne vivre chez moi. Mais il y a beaucoup de barrières encore. Là. Regardez, le système, il est à sens unique. D'habitude, tu te ramasses en CHSLD, tu ne sors pas de là.
Exact.
C'est rare, les gens qui sortent de là. Donc, il y a beaucoup de règles bureaucratiques à éliminer pour que je puisse revivre et puisse vivre en dehors de l'institution. Et bon, je travaille avec eux autres pour rendre ça possible, mais c'est pas facile, on va vous dire. C'est plein de règles qui font en sorte que pour bien du monde, c'est carrément impossible.
C'est parce qu'il existe déjà des programmes, quand vous parlez du chèque emploi-service, ça existe déjà, mais ce n'est pas appliqué de façon uniforme partout. C'est en anglais, on dirait spotty, c'est sporadique, c'est un peu hétérogène et ça ne fait pas 24-7 non plus de service que vous dirigez vous-même. C'est un service qui vous est imposé. Voilà.
Moi, là, c'est ça. Souvent, c'est ça. Il y a des limites d'heures, des limites de budget. Bon, il y a toutes sortes de règles qui font en sorte que c'est difficile d'y arriver. Puis, au travers de tout ça, il y a un manque de soutien aussi. Il y a quelques au Québec là, qui donnent un peu de soutien pour le chèque emploi-service. Mais, c'est rare que les gens ont accès là, à un conseiller, puis ils ont des services complets pour éduquer les gens comment ça fonctionne, comment être un bon employeur, comment gérer ses employés, Nous, avec Coopassis, on veut développer une offre de services qui va être vraiment spécifique pour rendre le chèque emploi service inclusif, que ça soit tout le monde et que ça ne soit pas intimidant. Parce que sur le chèque emploi service présentement, tu te renonces employeur et donc tu as toutes les responsabilités.
Qui vont avec, ça.
Tu n'as pas les outils là, pour gérer tout ça. Puis ça devient très intimidant pour les gens. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là, pour arranger tout ça, que ça fonctionne mieux. Hein. Puis on parle aussi des salaires qui ne sont pas adéquats actuellement. Donc, des limiteurs. Puis donc, sur les activités pour la vie sociale ne sont pas couvertes.
Incluses. Non, c'est des choses bien, bien essentielles, mais ça ne vous amène pas dehors beaucoup, ça. C'est pas quelque chose qui va vous permettre de faire comme une vie qui est au-delà des 6 besoins ou 7 besoins essentiels. Coopassis, que vous avez fondé avec d'autres personnes en situation d'handicap, ça se veut la structure qui va permettre d'encadrer ça, parce que vous ne demandez pas au gouvernement de créer un autre service de A à Z. On va utiliser ce que vous avez et laissez-nous autogérer ce service-là, des personnes en situation d'handicap qui vont être capables d'aider d'autres personnes en situation d'handicap d'utiliser le levier que le budget ou le programme qui existe permet d'exploiter. C'est ça qui est le rôle de Coopassis.
Oui, c'est ça le rôle. Puis on veut justement en arriver à un projet pilote. Le but à court terme, c'est vraiment de démontrer qu'il y a une autre façon de faire les choses avec le système actuel. Et on croit qu'il y a moyen de financer justement donc Coopassis, mais ça pourrait être d'autres organismes aussi, à travers, mettons, les chèques emploi service, ou est-ce qu'il y a un montant qui reviendrait à un organisme pour soutenir les gens dans la gestion de leurs services. Donc, les gens ne seraient plus tout seuls et les organismes pourraient être rémunérés pour ça. Donc, il y a une façon de faire. Ça existe déjà ailleurs dans le monde.
C'est ça.
C'est des organismes qui viennent soutenir. Là.
Exact. C'est pas un modèle qui tombe du ciel. Il y a des pays dans le monde qui, depuis plus de 40 ans, ont désinstitutionnalisé les personnes en situation de handicap qui étaient cloîtrées de façon inutile et abétissante. Et entre autres, je pense qu'en Suède, vous avez eu des contacts avec des gens en Suède qui ont fait cette démarche-là et qui ont été en mesure de faire avancer le système.
Oui, tout à fait. Nous, moi, depuis des années, en fait, je suis en contact avec des gens en Suède, en Norvège, aux États-Unis, puis un peu partout en Europe, même en Australie. Puis, c'est tout à la même démarche. Hein. C'est des personnes handicapées qui se prennent en main, qui montent un projet, qui vont voir les autorités. Et qui font pression jusqu'à temps que ça passe, tout pour avoir vraiment une vraie égalité avec les autres citoyens, pour qu'on soit plus contraints de vivre dans des institutions parce qu'il n'y a pas d'alternative. Donc, le but de la démarche, c'est vraiment de développer un système qui va fonctionner pour à peu près tout le monde et que les gens vont avoir un réel choix de vivre chez eux. Parce qu'actuellement, c'est souvent pas un choix, là. C'est genre, tu s'en vas en CHSLD, t'es trop handicapé, oublie ça, tu ne peux pas rester chez toi. On ne te donnera pas les services que tu as besoin. Puis tu te ramasses en dedans, puis c'est terminé. Là. Fait que il y a vraiment beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Et comme vous voyez, dans mon cas, puis bon, ça a été nommé par les autorités gouvernementales, ils veulent vraiment là, développer quelque chose pour que les personnes handicapées puissent vivre dans la communauté. Même ceux qui ont des besoins plus importants. Et bon, pour ceux-là qui sont déjà en dehors des CHSLD, d'accéder aussi le niveau de service, que ce soit une question juste de survie, mais qu'il y ait l'assistance pour les activités sociales, pour le travail, par exemple.
Oui. Hein,
parce que ça, actuellement, c'est pas disponible.
Parce que vous, avant d'être en situation d'handicap, vous-même, M. Marchand, vous aviez une carrière assez avancée à titre de gestionnaire senior en réseau informatique, des choses comme celle-là. Il y a toute une capacité de travail puis de productivité que vous pouvez plus amener à la société parce que vous êtes comme vous êtes en dedans.
Oui, c'est ça. Toutes les personnes handicapées, on a tous un potentiel humain. Mais c'est souvent impossible de le réaliser à travers le système actuel. Moi, j'ai eu un handicap toute ma vie. J'ai une dystrophie musculaire, j'ai pas des capacités au fil du temps. Mais moi, j'ai eu quand même beaucoup de privilèges. Une bonne vie avant de rentrer. C'est HSED. Je faisais des bons salaires, j'avais une conjointe, ça allait bien. Les affaires, j'avais du succès. Mais là, quand tu te ramasses que tu as besoin d'assistance de l'État, là, ça se complique.
Là, ça devient
lourd. Justement, ils ne favorisent pas l'autonomie. Hein. Tu es comme pris en charge, tu as un système, tu as des professionnels, tu as des docteurs, tu as un système institutionnel médicalisé. Puis ça devient une véritable prison. Tu n'es plus le maître de ton corps, tu n'es plus le maître de tes choix. Puis c'est ça, c'est...
Infantilisant. Très... C'est le mot qui me vient à l'esprit, c'est... C'est infantilisant, oui, je comprends.
Puis comme on voit avec l'histoire d'aide médicale à Montréal, ils veulent l'étendre là, pour les personnes comme moi et d'autres. Et c'est souvent ça qui arrive. Les gens, ils veulent pas être des fardeaux. Ils veulent continuer de faire le propre choix dans leur vie. Et ils veulent continuer de vivre dans leur maison et continuer leur vie comme tout le monde. Mais souvent, c'est pas possible. Et là, ce qu'on offre aux gens... Ben, c'est du suicide assisté.
Oui. Si les deux alternatives sont CHSLD ou l'aide à mourir, il faut une troisième voie qui est l'aide à vivre.
C'est le gros minimum. Puis actuellement, tu sais, tous les gens, souvent, ils prennent ce choix-là, entre guillemets, en disant que c'est un réel choix pour l'autodétermination. Mais actuellement, souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est impossible de s'autodéterminer, de réellement avoir un choix dans le système actuel. Donc, on veut vraiment pousser pour avoir un changement de paradigme et puis offrir un réel choix aux gens.
Parce que le modèle, comme vous dites, il existe partout dans le monde. Et une chose qui est très importante de souligner, il est rentable. Ça ne coûte pas cher. En fait, ça coûte moins cher d'utiliser ce système-là que d'avoir beaucoup de briques, de mortiers, de grands corridors drab avec des gens payés. Et c'est peut-être là que malheureusement vient, je dirais, le contre-coup à la... Ben, on vous souhaite bonne chance pour votre projet pilote. On espère que, malgré toutes les embûches que vous allez nécessairement affronter dans les 6 prochains mois, vous allez être capable de revenir en ondes, nous en parler. Monsieur Jonathan Marchand, merci beaucoup d'avoir été là.
Merci, au revoir.